OK, je fais qu'on va continuer la deuxième partie de ce qu'on a regardé la semaine dernière. Donc, on regardait les sept aspects d'une théologie biblique qui concerne notre corps. Donc, on avait vu que l'auteur qu'on utilise des images, des illustrations pour nous faire comprendre des principes importants. Donc, quand il parle d'une théologie biblique de nos corps, il compare le fil qui retient les perles à un cordon à sept brins. Donc, les cordons sont tous interreliés, tous tordus. Les uns les autres, ça donne de la solidité, bien entendu, au fil. Les huit perles sur lesquelles on va enfiler les perles sur ces sept brins-là, ce sont les versets ou les groupes de versets qui nous donnent les commandements du Seigneur concernant l'utilisation de notre corps en général. Alors, on avait vu la semaine dernière qu'on avait vu le premier brin qui était que Dieu nous a donné un bon corps. Alors, il y a eu au cours de l'histoire de l'Église des mouvements, des pratiques qui voulait démontrer que, dans le fond, que le corps était mauvais, que l'esprit était bon, mais que le corps était mauvais. Mais c'est une mauvaise théologie. Alors, en créant l'homme à son image, Dieu a donné à l'homme une existence corps-âme, et tout cela, ça confère de la valeur, de la dignité et de la permanence à notre existence corporelle. Alors, ça, c'est le premier brin. Autrement dit, le premier brin du fil à sept brins, c'est vraiment que Dieu nous a donné un bon corps. Contrairement à beaucoup d'enseignements qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'Église, que les gens ont souvent dit que le corps était mauvais, que c'était seulement l'esprit qui était bon. Le deuxième brin, on l'avait regardé un petit peu la semaine dernière aussi, c'est que notre corps est déchu à cause de la chute de l'homme. Et ça a produit des résultats désastreux. Quand on regarde autour de nous, des anormalités physiques, des maladies dégénératives, différentes maladies et la mort elle-même sont tissées dans la fibre même de notre existence. Donc, on a un corps déchu, un corps qui est bon, mais qui a été déchu à cause de la chute dans le péché. Alors, ces résultats-là du corps déchu vont demeurer avec nous jusqu'au retour du Christ et à la rédemption de notre corps. Alors, on le sait, quand quelqu'un décède, on l'enterre ou on le fait brûler. En tout cas, de toute façon, le corps, il ne va pas au ciel. Si la personne est sauvée, son corps, son esprit, son âme va au ciel immédiatement après sa mort. Et puis, le corps, lui, reste dans la terre jusqu'au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, à la fois les sauvés et à la fois les inconvertis vont ressusciter pour être réunis de nouveau avec leur corps, mais pour vivre avec leur corps dans l'état dans lequel ils vont être soit dans l'enfer ou soit au ciel pour l'éternité. Alors, la réunion du corps va se faire au moment du retour du Seigneur. Alors, on avait vu ça la semaine dernière. On avait vu aussi qu'il y avait des tendances dans l'Église actuelle, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, l'évangile des gens qui pensent qu'on peut presque commander à Dieu, que Dieu nous doit des choses, qu'il nous doit la santé, qu'il nous doit... Alors, quand on étudie les Écritures d'aplomb, on se rend compte que ce sont des mensonges. On avait regardé un petit peu la semaine dernière l'enseignement du Christian Science, qui a été fondé par Mary Baker Eddy. Mais ce n'est pas la seule affaire, monsieur. On ne rentrera pas dans les détails de tous les mouvements qui parlent de ça, là, l'évangile de la prospérité. Mais il reste que c'est très répandu de nos jours et c'est très attirant. Je me souviens, quand je suis allé en Europe, en France, il y a un Noir qui m'avait invité à aller dîner chez lui dimanche après le culte. J'avais été chez lui. Puis il me racontait que sa fille a demeuré à Paris. Et à Paris, elle était embarquée dans un mouvement comme ça, qui était l'évangile de la prospérité. Elle a investi toutes ses économies là-dedans et elle a tout perdu. Et maintenant, elle était découragée complètement. Lui, il avait dit de ne pas embarquer là-dedans, mais elle avait un petit peu fait à sa tête, alors elle a dû perdre. Mais c'est ça, c'est très fréquent. Il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Europe, il y en a un petit peu partout dans le monde de cette sorte d'évangile-là, de la prospérité. C'est un faux évangile. Et c'est souvent les personnes vont utiliser des versets qui sont tirés hors contexte pour leur faire dire des choses que la Bible ne dit pas quand on prend l'ensemble des versets et qu'on les interprète correctement. On était rendu au troisième brin. Et ça va être celui de cette semaine. Alors, la troisième vérité biblique qui concerne la théologie du corps, le troisième brin, c'est un corps qui est subordonné. Notre souci et notre soin pour le corps doit être subordonné ou soumis au plus grand souci de nos âmes et de l'avancement du royaume de Dieu. Voyez-vous? C'est en train de nous dire que le souci de nos âmes doit être plus important que le souci de nos corps. En train de nous dire qu'on ne doit pas avoir de soucis pour notre corps. Il est en train de nous dire qu'il est subordonné. Donc, un corps subordonné, ça veut dire que le plus important, c'est l'âme. Subordonné, ça veut dire que le corps est important aussi, mais si tu lui mets dans un ordre d'importance, l'âme est plus important. Donc, on doit toujours donner priorité au bien-être et au salut de nos âmes plus qu'au bien-être de nos corps. Donc, c'est juste une question de mettre l'emphase à la bonne place. Si quelqu'un veut obéir à ce que la Bible nous commande, puis qu'il met toute l'emphase sur le corps, puis qu'il oublie que son âme est là, à quelque part, il va être débalancé, comme on peut dire. Alors, Matthieu 6, versets 25 à 33. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui parle et dit, « C'est pourquoi je vous le dis. Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous, par des soucis, peut ajouter à sa stature une seule coudée? Et quant aux vêtements, pourquoi êtes-vous en souci? Étudiez les lys des champs. Comment croissent-ils? Ils ne prennent point de peine et ne filent point. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, combien plus vous, gens de petite foi? Ne soyez point en souci, disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? » Ce sont les nations qui recherchent toutes ces choses et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On a donc de la misère. Comme je ne sais pas, vous l'avez lu, moi je l'ai lu de multiples et de multiples et de multiples fois. Comment ça se fait qu'on continue à s'inquiéter encore après qu'on l'a lu et qu'on sait que c'est Dieu qui parle? Pas s'inquiéter, on s'inquiète tout le temps. Alors, quelque part, c'est vraiment quelque chose, c'est dans notre nature, on a de la misère à contrôler ça. Il faut vraiment retourner au verset et le méditer. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. « Mais quant aux fables profanes et de vieilles femmes, évite-les. » Et exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie, de celle qui est à présent et de celle qui est à venir. Voyez-vous, ici il parle des deux, il parle de l'âme, il parle du corps, mais il dit que c'est plus important celle de l'âme. Alors ces versets, ils nous prouvent que l'âme doit avoir la priorité sur le corps. Matthieu, chapitre 10, verset 28. « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, un véritable chrétien va aller jusqu'au martyr pour l'amour de la vérité et de la justice selon la Bible. Quand on regarde l'histoire de l'Église en est remplie de personnes qui ont préférer mourir ou être torturé ou subir des très mauvais traitements plutôt que de renoncer à leur foi à Jésus-Christ. Alors, bien entendu, le chrétien qui est vraiment convaincu de son salut en Jésus-Christ va accepter que son corps soit emprisonné, mutilé, battu immolé, affamé, plutôt que de renier son sauveur Jésus-Christ. Alors souvent, j'ai entendu, des fois qu'on prêche sur ce sujet-là, j'ai entendu des gens dire, « Ben moi, je suis pas sûr que s'il arriverait du monde puis qu'il commencerait à vouloir m'emmener en prison ou me maltraiter ou me battre, que je serais capable de passer à travers. » La phrase est bien dite, « que je serais capable de passer à travers. » Toi, tu serais pas capable. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne la force de traverser ces choses-là. Quand on regarde l'histoire du passé, là, de ceux qui ont été des martyrs, ce serait très certainement pas par leur propre force qu'ils ont passé à travers de ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une participation. Oui, ils ont une participation. Mais c'est la grâce de Dieu qui te permet, qui te donne de la force d'être capable de traverser ça. N'est-ce pas que ça peut faire peur, hein? Quelqu'un vient, il te met en prison, puis il te met à ta famille, puis il se met à te battre, puis il se met à te faire du trouble, puis pas à peu près, puis il fait du trouble à ta famille en plus. Puis si tu n'abandonnes pas, là, c'est pas à cause que tu es fort. C'est parce que le Seigneur est bon. Alors, on a ici un exemple dans Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. L'exemple d'Épaphrodite. Paul, il dit, « Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, votre envoyé, et celui qui m'a secouru dans mes besoins. Car il désirait ardemment de vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Il a été malade, en effet, et près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non pas de lui seulement, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie et que j'aie moins de tristesse. Recevez-le dans le Seigneur en toute joie et honorez de tels hommes. » Autrement dit, à cette époque-là, là, allez voir un gars comme Paul en prison, ça risquait ta vie. Alors, s'il s'occupait des besoins de Paul, c'était à ses risques et périls. C'était des hommes qui étaient courageux, qui étaient prêts même à sacrifier leur vie, leur confort, et à aller eux-mêmes en prison pour soutenir un enfant de Dieu. Quelque part, ça démontrait, parce que ça dit dans le verset 30, « Car il a été près de la mort pour l'œuvre de Christ, ayant exposé sa vie pour suppléer au service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » Autrement dit, un chrétien qui est prêt à sacrifier sa propre vie pour aider un autre chrétien, ça démontre qu'il y a quelque chose dans son esprit, dans son cœur, dans son être, comme on dit. Alors, soyons sur nos gardes et méfions-nous des enseignements qui prétendent que notre santé physique et la préservation de nos corps soient notre but le plus élevé. Le plus élevé, c'est l'âme. Deuxième, le corps. Acte 20, verset 24. L'exemple de Paul. « Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse. » Facile à dire, là. Ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Un autre exemple de Paul, acte 21, verset 13. « Mais Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur, car je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Alors on voit la véritable foi est capable de traverser des épreuves, mais bien entendu, je suis convaincu que Paul est très conscient que s'il passe à travers, ça va être par le soutien de Dieu. Alors ce troisième brin-là nous expose la fausseté des enseignements mensongers très répandus de nos jours. L'évangile de la santé, il y en a aux États-Unis, c'est épouvantable, on prêche, « Ah, tu commandes à Dieu, puis c'est lui qui livre. » C'est incroyable ce qu'on... Alors, l'évangile de la richesse, l'évangile de la prospérité, en anglais, ils appellent ça « Health, Wealth and Prosperity Gospel », très répandu aux États-Unis, et ça a énormément de succès. Et parce que souvent, c'est relié avec des enseignements, « Donne-moi quelque chose et Dieu va te le rendre au décuplé. » Alors la personne, elle envoie, je ne sais pas, mais elle envoie, disons, 500 piastres, puis elle se dit, « Ah, ben le Seigneur, vous m'en envoyez 5 000. » C'est comme des investissements, ça n'a aucun sens. Dieu m'a dit ça. Ils prennent des versets, vraiment, comme on a dit tantôt, ils les tordent vraiment bien tordus. Quatrième vérité biblique concernant la théologie du corps, le quatrième brin, les sept brins qui sont tortillés un sur l'autre. Un corps en santé, une vie longue et en santé, se doit d'être désiré et recherché de façon responsable pour l'amour de plus grands fruits spirituels et pour une plus grande fécondité pour Dieu. Souvent, notre service au Seigneur va être diminué par l'état de notre corps. Mais bien souvent, l'état de notre corps, c'est nous qui avons emmené notre corps dans cet état-là. Alors, on devient moins efficace, on devient moins travaillant. Et à quelque part, on ne se rend pas compte, mais quand on fait ça, on pêche. Parce qu'on se devrait d'offrir notre mieux au Seigneur. Alors, la vie de l'apôtre Paul établit très fortement cette vérité-là. Quand il dit dans Philippiens 1, versets 22 à 26, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Oui, oui, vous voyez la mort comme gagnant quelque chose. Il ne perdait pas quelque chose, il gagnait quelque chose. « Or, s'il est utile pour mon œuvre de vivre dans la chair, et ce que je dois souhaiter, je ne le sais. Je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui me serait beaucoup meilleur, mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Et je suis pleinement persuadé que je resterai et que je demeurerai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, par mon retour au milieu de vous, un sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. » Qui n'a pas déjà connu ça? Tu es en train de dire qu'il est pressé des deux côtés. Autrement dit, il est pressé parce qu'il aura hâte d'être au ciel, puis ça presserait. Il aimerait vraiment ça, là, sortir de ce monde de péché, de misère. Mais il dit, il y a un autre, je suis pressé d'un autre côté parce que je vois des besoins chez mes frères et chez mes sœurs. Il dit, je ne sais pas de quel côté je dois pencher. Je dois pencher du côté que le Seigneur va me faire pencher. Si le Seigneur considère que c'est plus important que je reste pour l'édification des frères et des sœurs, je vais rester. Puis si c'est l'heure de mon départ, ben je vais m'en aller. Puis il sait que c'est ça le meilleur. On le sait tous que c'est ça le meilleur. Mais peut-être que Dieu a encore du chemin à faire avec nous. Alors, Paul désirait une longue vie pour le but d'allonger son service au Christ et pour le bien-être des croyants. Psaume 92, versets 12 à 15. Ici, on parle des promesses de Dieu. Le juste croîtra comme le palmier. Il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore des fruits dans la blanche vieillesse. Ils seront vigoureux et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Quand on regarde les verbes là-dedans, dans ces versets-là, il va croître, il va s'élever, il va fleurir, il va porter des fruits même dans sa blanche vieillesse pour annoncer que l'Éternel est juste. Et là, on est en train de parler des personnes qui sont fidèles au Seigneur. Proverbes chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie. Mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. On a une grande responsabilité, hein? Non seulement nos enfants, mais les enfants de nos enfants. Or, on a la responsabilité d'être la courroie de transmission de l'Évangile, des richesses qu'on a reçues de Dieu. Jean, chapitre 15, verset 8. « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Beaucoup de fruits. Chaque génération a un grand besoin de voir des modèles d'hommes et de femmes matures, sages, sanctifiés, pour démontrer la réelle bénédiction de vivre pieusement et généreusement au service de Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'on a besoin de voir des modèles? Moi, quand tu regardes ma vie, il y a des personnes, il y a des chrétiens dont j'ai lu la biographie, et on a besoin de ça. Ça nous donne des modèles à suivre. Il y a des personnes qui l'ont plus que d'autres, autrement dit. Et quand on regarde comment ils ont vécu, ça nous encourage à vouloir être comme eux et à les imiter pour la gloire de Christ. On a besoin de ça. Mais peut-être qu'on peut demander au Seigneur que ce soit nous qui deviennent des modèles pour les autres. Parce que plus on vieillit dans la foi, plus on serait censé de devenir des modèles que les autres auraient le goût d'imiter. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Tu es en train de parler de 3 générations. La grand-mère, la mère, le fils, et il voit que la foi s'est transmise, l'instruction chrétienne s'est transmise d'une génération à l'autre. Tite, chapitre 2, versets 1 à 5. Mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine, que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans l'amour, dans l'attente patience, que pareillement les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient pas calomniatrices ni sujettes à beaucoup de vin, enseignant ce qui est bon, afin qu'elles forment les jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être prudentes, chastes, sédentaires, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Le rôle des personnes âgées qui prennent de l'âge dans le Seigneur ont des grandes responsabilités. Oui, il parle ici de la responsabilité de la femme envers la femme. C'est les vieilles dames âgées qui ont de l'expérience chrétienne, qui se doivent d'enseigner les jeunes chrétiennes à faire toutes les choses qu'on a lues dans le passage. Bien sûr, il y a l'enseignement chrétien du dimanche, mais il y a aussi l'influence des personnes. Alors, notre société moderne fait la promotion d'une vie longue et en santé, mais pour les mauvais motifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est être centré sur soi et sur le service à soi-même ou pour se payer des vieux jours en or. Alors, les gens aujourd'hui pensent beaucoup de cette façon-là. Rien ne nous dit dans la Bible qu'à partir de 65 ans, les directives de Matthieu 6, versets 31-33, sont changées radicalement ou suspendues. Autrement dit, même quand on est âgé, on a des responsabilités comme les jeunes, puis donc on en a encore plus parce qu'on a plus d'expérience, plus de connaissances. Alors, Matthieu 6, 31-33. Ne soyez donc point en souci, disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cinquième, on va faire le cinquième. Le cinquième brin, c'est un corps affligé. Alors, la mauvaise santé, les maladies physiques chroniques et la mort prématurée peuvent être le résultat d'un exercice inexpliqué et mystérieux de la souveraineté absolue de Dieu. Ça, c'est à réfléchir un petit peu, hein. Un point à nous faire réfléchir. Voici un exemple classique de ce principe. Jésus et ses disciples rencontrèrent un homme né aveugle. Les disciples croyaient qu'ils savaient pourquoi cet homme était né aveugle. Ils assumaient que sa cécité était due à son péché ou à ceux de ses parents. Jésus les informe que leur conclusion est fausse et que la cécité de cet homme était une disposition souveraine du Seigneur pour déployer sa gloire et sa puissance. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Dieu permet certaines choses sur la terre dans le but de manifester sa gloire. Un autre exemple similaire avec la maladie et la mort de Lazare. Jean chapitre 11, versets 1 à 4, versets 14 à 15 et versets 38 à 44. Or, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, de la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, c'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur de parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire, « Seigneur, voici que celui que tu affectionnes est malade. » Ce qu'entendant, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Jésus, verset 14, Jésus donc leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte et on avait mis une pierre dessus. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où la mort était couchée. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le. » Et laissez-le aller. Alors, le principe aussi est clairement exprimé dans le livre de l'Exode, quand on parle de l'Éternel qui parle avec Moïse. Exode 4, verset 11. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme, et qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Il est en train de dire, c'est lui qui rend aveugle, c'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend muet. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Spécial. Alors, nous pourrions aussi étudier en détail le livre de Job, où nous trouvons le principe de la souveraineté de Dieu dans les afflictions et les épreuves des croyants. Elles sont sous le contrôle absolu du Seigneur, et ceci pour le bien des croyants et leur croissance spirituelle. On va terminer par Romains 8, 28. Et on terminera la semaine prochaine. Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble en bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein arrêté. Puis si on prend la version Sterval, ça dit un petit peu différemment. Or, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais le grec, c'est travaillent ensemble. Les choses qui nous arrivent, que nous, on les perçoit comme étant des choses, des bénédictions ou comme étant des afflictions, des choses difficiles, Dieu dit que toutes ces choses-là, c'est comme un tricot qui fait que nos vies. Et ça a un but. Et le but, c'est de nous rendre meilleurs, c'est de nous faire ressembler davantage à son Fils Jésus-Christ. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera ça la semaine prochaine.
Il y en a d'autres dans le dos.